L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère, même les créatures silencieuses. C'est une émission réalisée avec l'association Bretagne Vivante et aujourd'hui on s'intéresse à des organismes très étonnants. Ce ne sont pas des animaux, je ne dirais pas tout à fait des plantes, ce sont des êtres hybrides. Ils sont rarement la vedette des gazettes et pourtant les lichens sont fascinants. Notre invité Laurent Gagé est polyvalent, c'est un ancien prof de SVT, Sciences et Vie de la Terre, bénévole de Bretagne Vivante depuis très longtemps aussi. Et il s'intéresse aux chauves-souris et il est aussi botaniste et il est secrétaire de l'AFL, Association Française de Lichénologie, dont j'ai découvert l'existence hier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la lichénologie donc, est rattachée bien sûr au lichen. Oui. Qu'est-ce que c'est un lichen?
Donc oui, la lichénologie, c'est la science des lichens, en fait. Donc un lichen, c'est un être mixte, en fait. C'est un champignon et une algue, en général.
C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une plante, vraiment, voilà. Parce que champignons ne sont pas des plantes.
Voilà, en fait, des champignons, c'est vrai, quand on était jeune, on disait que ça appartenait aux végétaux.
Oui, que c'était un légume.
Donc, à l'époque, on opposait végétaux, animaux. Végétaux, ça ne bouge pas, et les animaux bougent. En gros, c'était un petit peu de façon caricaturale, comme ça, qu'on les classait. Et donc, depuis, des recherches ont montré que les champignons étaient intermédiaires entre les végétaux et les animaux.
Oui. Nous, les mammifères, enfin les animaux, sommes plus proches des champignons que des plantes. Voilà. Ça s'est séparé en même temps.
Enfin, oui. En l'évolution, il faut voir ça comme un arbre avec des branches. Et en fait, on est dans une branche commune avec les champignons, que plus près, donc celle avec des végétaux, en fait.
Et les lichens, ça remonte à, évidemment loin. Oui. C'est quoi? C'est une famille, un ordre, une classe?
Donc, en fait, c'est particulier parce que ce sont des champignons qui sont associés à des algues.
Donc des êtres hybrides.
Voilà, ce sont des êtres mixtes. Alors quand je dis, ce sont des êtres hybrides, mais il y a pas que des algues. Il y a aussi depuis quelques années, on a montré qu'il y avait d'autres partenaires.
Ah oui. Pas forcément des algues, quoi.
Voilà,
il y a toujours une base champignon, ouais, c'est ça?
Alors en fait, la base, c'est le champignon.
D'accord.
Et le champignon, en fait, il peut être associé à. Dans 85% des cas, il peut être associé à une algue verte, microscopique. Dans 10% des cas, il peut être associé à ce qu'on appelle maintenant des cyanobactéries, ce qu'on appelait avant des algues bleues. On appelle plutôt ça maintenant des cyanobactéries. Et donc, parfois, 5% possèdent les deux types d'êtres vivants.
Bon. Ils cumulent. Voilà. Donc, une symbiose à trois, en fait.
Oui, oui. Et un peu, on peut encore compliquer la chose, parce que depuis 2016, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres êtres vivants qui étaient associés aux champignons, et notamment une espèce de levure qui intervient et qui est très importante dans la mise en place du thal, du lichen.
Alors oui, il faut nous décrire le lichen. Alors, parce que est-ce que c'est quoi? C'est une poche avec l'algue dedans?
En gros, les lichens, il y a plusieurs types de structures. La plus facile à repérer, c'est les lichens foliacés, ce qui ressemble à une feuille. C'est un thal qui est plat, qui fait 1-2 mm d'épaisseur.
Donc thal, c'est quoi? C'est le nom du corps?
Le thal, c'est le nom du champignon.
D'accord, ok, très bien.
La masse. Parce que, en fait, la grande partie du volume du lichen, c'est du champignon.
Ok, bon.
Et algues et cyanobactéries, sont présentes à l'intérieur du champignon.
Donc, on ne les voit pas, en fait.
En fait, on les voit, quand on fait une coupe dans le lichen, on voit parce qu'il y a du vert. On voit que, comme il y a quand même pas mal d'algues,
Alors,
même si les algues microscopiques sont invisibles à l'œil nu, là, comme il y a une bonne concentration, on arrive à les repérer quand on fait une coupe de certains tissus, de certains thals. Pas de tous, parce que parfois ils sont très très fins.
D'accord.
Mais les algues sont vraiment à l'intérieur du thal du champignon.
Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'une algue, ce n'est pas évidemment seulement dans la mer. Hein. Voilà.
Voilà, en fait, oui, c'est vrai. De façon schématique.
Chez nous, les Finistériens, on aurait tendance à croire ça.
Oui, mais c'est tout à fait classique. Hein, donc mais c'est des images qu'on porte aussi, des représentations qu'on a de l'environnement. Mais les algues, en fait, elles sont un peu partout. Hein, mais donc, en fait, les plus grandes, celles qu'on connaît, sont les macro-algues qu'on trouve en mer, voire dans les rivières. Hein, on a des algues
qui poussent d'eau douce
dans les rivières, mais il y a tout un ensemble d'algues comme qui sont unicellulaires. Et ça, ces algues unicellulaires, pour qu'elles vivent, il faut qu'il y ait de l'humidité dans l'air. Alors c'est pour ça qu'on va les retrouver dans les zones un peu humides, dans les sous-bois, dans les surplombs rocheux, hein, où il y a de l'humidité.
Oui.
Et c'est aussi pour ça qu'on va les retrouver dans les champignons.
C'est ça. Et ce qui caractérise une algue, parce que c'est quand même une algue, finalement, c'est une plante qui fait de la photosynthèse.
Oui.
Donc on pourrait dire, bah voilà, qu'est-ce que ça a de particulier, une algue ? C'est le fait que ça vive en milieu humide, c'est ça ?
En fait, l'algue, elle a besoin d'humidité pour résister à l'environnement extérieur. Hein, donc parce qu'elle n'a pas de protection, en fait.
C'est ça.
Souvent, elle n'a pas de protection pour limiter la dessiccation. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'un milieu humide.
Mmh.
Et donc, l'algue parce qu'en fait, là, c'est une association entre les deux qu'on appelle une symbiose.
Voilà, on va expliquer
donc,
ça.
L'algue va faire la photosynthèse.
Mmh.
Donc,
elle accède à la lumière, même si elle est à l'intérieur du lichen.
Elle est à l'intérieur du champignon. Elle a donc la partie du champignon donc est assez fine. Hein, et donc, l'algue récupère donc, les rayons lumineux. Elle, grâce à ses rayons lumineux, elle peut faire la photosynthèse. Et en plus, il faut qu'elle ait accès à l'eau et à l'atmosphère.
Mais oui.
Et la surface du lichen est construite de façon à favoriser les échanges.
Bah oui, c'est ça.
Au niveau chimique, il y a toute une chimie de la surface du lichen qui va permettre de favoriser les échanges entre l'algue, qui est planquée à l'intérieur du champignon, mais elle va pouvoir ainsi échanger avec l'atmosphère donc pour avoir de l'eau et de l'oxygène pour faire la photosynthèse.
Donc l'échange
le CO2.
Ouais, CO2.
Sachant que en bout du compte, c'est l'O2 qui est produit.
Alors, elle produit de l'oxygène.
Oui.
Alors, l'algue, en fait, ce qu'elle apporte au lichen, c'est pas l'oxygène, c'est plutôt des nutriments, non ?
Ouais, en fait, l'algue, elle va donner aux
champignons
de la matière organique.
D'accord.
Donc, c'est la photosynthèse, c'est la synthèse de matière organique. Donc, à ce moment-là, l'algue va fournir aux champignons de la matière organique. Et à peu près... 70% de la matière organique qui est fabriquée par l'algue va partir dans le champignon.
Donc, elle produit un surplus, si on veut.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Le champignon, ben donc, on l'a dit, c'est pas vraiment un animal, mais finalement, c'est plus proche d'un animal que du végétal. Mmh. Il mange. Mmh. Et en échange, il protège l'algue, en fait.
Voilà, en permettant à l'algue d'être à l'intérieur de lui-même, donc le champignon, il récupère toute cette matière organique, parce que lui... Comme les humains, comme les animaux, il a besoin de matière organique pour vivre.
C'est ça, il ne peut pas produire lui-même, il ne fait pas de photosynthèse,
voilà,
le champignon.
Donc sa matière organique, donc il la produit à partir de matière organique extérieure. Donc c'est ce qu'on appelle un hétérotrophe, alors que l'autre, c'est les végétaux, sont des
autotrophes. Ok. Alors, les lichens, parce qu'en fait, c'est une énorme famille. Combien il en existe dans le monde ? Je ne sais pas si on le sait.
Dans le monde, là, donc, il y a à peu près 20 000 espèces.
Oui, d'accord.
Donc c'est un gros groupe.
Identifié, parce qu'il y en a sans doute qu'on ne connaît pas.
Mais pour compléter, j'allais juste dire qu'en fait, actuellement, on en trouve encore, à l'échelle mondiale, une centaine d'espèces par an.
Ah ouais.
Rien qu'en France, on en trouve plusieurs espèces par an. Hein.
Ah oui. Et donc en Bretagne, on sait qu'il y en a à peu près combien
En Bretagne, en lichen, on est à peu près à 1200 lichens.
Voilà. Et vous, ça vous arrive d'en découvrir des nouveaux lichens ?
J'en ai découvert un, au moins. Mmh. J'en ai découvert un.
Bravo.
Il y a une publication qui est sortie. Donc,
c'est le Laurent Gagéus.
Non. Mais c'est un collègue qui a participé donc à sa nomination, et son collègue qui a malheureusement disparu donc il y a un peu moins de deux ans, qui était un de mes maîtres en lichénologie. Donc on a participé donc en commun à cette découverte. Donc, et en fait, cette espèce-là, nouvelle, elle a le nom d'un lichénologue rennais.
Mm-hmm.
Donc, d'accord. Jean-Claude Massé. Bon. Donc, il a Myriolessis Massei, voilà, pour son petit nom. Donc,
d'accord.
Voilà,
donc... Il faut que ça soit en latin.
Oui.
Et donc, 1200 espèces. Est-ce que les lichens ont toujours cette... cette apparence qu'on leur connaît, c'est-à-dire très plat, très fin
Non, en fait, il y a une disparité de forme. Hein.
Ah, ouais.
En gros, les lichénologues disent qu'il y a à peu près 6 formes différentes de lichens, hein, de type, hein, 6 types différents. Et les plus connus, ce qu'on repère les plus facilement, en fait, ce qu'on appelle les lichens foliacés, donc ceux qui ont un tal plat.
En forme de feuille.
Donc voilà, en forme de feuille. Donc, ensuite, on a des lichens fruticuleux. Alors, fruticuleux, ça veut dire que c'est une forme d'arbuste.
Ah oui, d'accord, ok.
Alors, ils pendouillent dans les branches, soit ils sont dressés, donc...
Ah oui, ils ont un certain volume.
Voilà, ils occupent... Okay. Au lieu de... Donc, eux, ils occupent un volume dans l'espace beaucoup plus important que les foliacés, en fait.
Pas en surface, quoi. Voilà. Enfin, moins en surface.
Ouais, d'accord, donc, okay. Parce que les lichens foliacés sont à plat. Les fruticuleux, en fait, utilisent... atmosphérique. Et la troisième forme classique, on va rester là, parce qu'il y en a d'autres.
Oui,
c'est ce qu'on appelle les lichens crustacés. Alors eux, crustacés parce qu'ils sont encroûtants. Ça veut dire qu'ils sont à la surface du support.
Mm-hmm.
En général, ils ont à peu près 1 mm d'épaisseur et ils sont à la surface du support, voire à l'intérieur du support. Quand le support est pénétrable.
Ah, oui.
Par exemple... sur des supports calcaires, le tal peut être à l'intérieur du support.
Donc on ne le verra pas trop.
Voilà, donc ce qui fait qu'on voit que la partie supérieure du tal, et on voit les organes de reproduction.
D'accord.
Les apothécies.
Oui, ce qui est classique chez les champignons, parce qu'en fait, chez les champignons qu'on connaît en forêt, c'est l'organe de reproduction qu'on voit.
Oui,
l'essentiel de l'individu est sous la terre, en fait, c'est ça.
Oui, oui. Mais sauf que c'est vrai, pour les lichens, la masse du champignon, on la voit bien par rapport aux autres champignons.
Sauf ceux-là qu'on voit moins bien. Quoi.
Ce qu'on voit généralement, c'est l'appareil reproducteur. Hein,
c'est ça.
Alors que tout le mycélium, il est dans le sol, voire autour des racines des arbres, voire à l'intérieur.
Ouais.
Voire à l'intérieur des arbres.
Et dans le cas des lichens, il n'y a pas vraiment de mycélium, alors
Non, en fait, il est... c'est un mycélium, mais... c'est lui qui constitue le tal.
D'accord. Hein, le fameux tal. Ça s'écrit comment, le tal, d'ailleurs?
T-H-A-2-L-E.
Ah, d'accord.
Voilà.
Très bien.
C'est vrai. Donc,
d'utiliser
ce type de terme, on ne sait plus trop. Mais...
Donc, on a décrit un peu le fonctionnement de tout ça. Et les lichens, donc... Il y en a vraiment dans tous les milieux, c'est ça ?
Oui, ce sont des espèces en fait, qu'on va retrouver de l'estran, c'est-à-dire l'estran, c'est la partie qui s'immerge à chaque marée, jusqu'au sommet les plus élevés de l'Himalaya. Hein, donc, on a des espèces qui sont capables de résister à des fortes températures et à des faibles pressions en altitude. Mais on a des espèces aussi qui sont capables de vivre immergées à chaque marée.
Ouais, dans l'eau salée, vraiment.
Donc là, en Bretagne, on est assez richement garni justement avec toutes ces espèces-là, puisque dès qu'on va en bord de mer, des lichens qu'on voit sur la côte, dès qu'on voit des marques noires sur les rochers, une bande noire là qui est immergé à chaque marée. En fait, c'est un lichen qu'on appelle le verrucaria. Et ce lichen-là, il va être immergé à chaque marée. Et au-dessus de lui, on a d'autres ceintures de lichens, mais qui sont capables de résister à l'aspersion, à l'air salin, aux vagues, au vent. Et ce qui fait que ça fait des ceintures de lichens, comme existent des ceintures d'algues vers la profondeur, ou les ceintures de végétaux autour des étangs.
D'accord. Et il y a même, vous le disiez, des lichens spécifiques au Brennick, au Brennick.
Au Brennick, oui, sur les Brennick et d'autres espèces voisines, on a des lichens qui aiment donc qui aiment bien le calcaire. Donc ça veut dire que leur talc va s'associer à la coquille et on voit à la surface de la coquille les périthèces, hein, ce qui sont les organes de reproduction de ces espèces-là. Hein. Et on voit ça fait des petites taches noires moins d'un demi millimètre. Mmh. Donc c'est tout petit. Donc,
oui. Et eux, ils s'installent donc sur les berniques ou les patelles, d'ailleurs, oui, on peut dire. Oui. Mais ils n'apportent rien de spécial à la bernique. Enfin, ils ne l'embêtent pas spécialement, mais ce n'est pas une symbiose, là.
Là, le lichen, lui, donc, il utilise le support.
Mmh.
Parce
c'est
que,
tout,
en fait, c'est du calcaire.
Ouais. Mais en fait, il mange pas spécialement la coquille, voilà.
Non, il est vraiment à la surface. Et en fait, quand on regarde une brénique, quand elle est occupée par ces lichens-là, on voit tout des découpages. On voit qu'il y a plusieurs individus de lichens dessus, et c'est assez, ça, en fait, une espèce de mosaïque à la surface de la coquille.
Je regarderai mieux la prochaine fois que j'irai à la mer.
Avec plein de petits points noirs.
Ah ouais. Alors, d'accord.
Bon, vaut mieux avoir la loupe pour pouvoir observer ça. Mais...
Ouais. Et alors, on n'a pas de désert dans le Finistère, mais il y en a, parce qu'on se dit champignons, milieu humide. Est-ce qu'il existe des lichens qui vont dans le désert, qui vivent dans le désert
De résister à toutes les dans toutes les conditions de milieu.
Alors, on n'en a pas encore envoyé dans l'espace, sur la Station Spatiale Internationale, peut-être
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Vous n'y êtes pas allé.
Par contre, en feuilletant un petit peu, il y a certaines espèces qui vivent bien dans les déserts. Hein, donc,
d'accord.
Ouais, ça, c'est
donc vraiment partout.
Oui, partout. Mmh. Ouais, c'est pour prolonger là-dessus, ce sont des espèces qu'on dit pionnières. C'est-à-dire dans un milieu qui est inoccupé.
Mmh.
Pionnières, c'est les premières qu'on voit.
Mmh.
Mais en fait, avant elles, très souvent, il y a des films de bactéries, des films d'algues qu'on ne voit pas.
Bien sûr.
Mais les lichens vont s'installer sur ces, qu'on appelle ça des biofilms, qui sont
d'accord.
À la surface, et ça va permettre au lichen de faire ses premiers pas.
Mmh.
Et après, une fois qu'il est là, donc il peut se développer.
Et après, il y aura, j'imagine, des plantes qui vont s'installer sur les lichens.
Voilà, c'est lichen, mousse. Après, c'est des plantes à fleurs. Quoi.
Ouais. Et donc, il y a plus de lichens que de plantes à fleurs, en fait, sur le globe. C'est ce que vous...
À
peu près.
Si je regarde en France... il y a à peu près 4500 espèces de plantes à fleurs pour à peu près 2500 espèces de lichens.
Oui, d'accord, ok.
Mais si on se rapproche dans le Finistère, on est à peu près un peu plus de 1000 espèces de lichens et au niveau des plantes à fleurs, on est à 1200, quelque chose comme ça.
Ah oui, donc finalement... D'accord.
Donc ça montre très riche, mais... toujours en pleine découverte, puisqu'on découvre toujours de nouvelles espèces. Alors, sauf qu'il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué pour l'instant, mais par rapport à la diversité, c'est la taille. Il y a beaucoup d'espèces qu'on voit à l'œil nu, mais il y a beaucoup d'espèces aussi qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Et comment vous savez qu'ils sont là, alors? Comment appelez-vous?
Il faut chercher.
Ah ouais, vous grattez des surfaces.
Il faut prendre, faut prendre sa loupe et... Donc, survoler le tronc d'arbre, survoler le... Et parfois même, sur le terrain, on ne le voit pas. C'est qu'une fois à la maison, qu'on regarde à la loupe binoculaire,
qui
grossit plusieurs fois, où là, on peut voir le lichen.
Et l'identifier, notamment.
Voilà. Ça, c'est la première partie de la démarche. Une fois qu'on a vu à la loupe, là, on peut après faire des coupes pour pouvoir identifier. Parce que très souvent, on a besoin de mesurer la taille des spores pour identifier l'espèce.
Eh oui.
Ce qui fait que c'est un gros frein aussi à la détermination des espèces. Ça demande du matériel et du temps.
Bah oui, exactement.
Hein, on passe énormément de temps pour déterminer une espèce.
À découper, à scruter le lichen.
Voilà,
à
chercher.
Ouais.
Donc on a... microscope. Et après, on a des réactifs qui nous permettent de mettre en présence, en évidence certaines réactions. Et ça, ça nous oriente pour déterminer l'espèce.
D'accord. Donc là, c'est de la chimie, là, plutôt.
Oui, ouais. Mais c'est des réactifs très simples. Hein. C'est de l'eau de Javel. De la potasse. Ouais. Mais ça, c'est une découverte qui a été faite dès le 19e siècle, au mi-temps du 19e siècle, hein, un des premiers lichénologues. Lui était finlandais, je crois, mais il vivait en France. Donc, Nylander, il a utilisé, un des premiers à avoir utilisé ces substances de base, ces réactifs de base, pour déterminer les lichens.
Et vous me disiez que là, après l'émission, ou à l'occasion de l'émission, vous alliez faire un tour en forêt du Cranou. Donc, c'est un spot pour les lichens, la forêt du Cranou ?
Oui, c'est un spot historique pour les lichénologues bretons. C'est une vieille forêt.
Et on n'en a pas beaucoup en Bretagne, c'est vrai.
Avec des vieux chênes, principalement. Et sur l'écorce de ces vieux chênes, on a beaucoup d'espèces qu'on dit océaniques. Qui vivent en Bretagne, mais pas ailleurs, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humidité.
Donc c'est lié au climat océanique,
C'est lié au climat. Et donc je profite de ma venue ici pour aller faire un petit tour en forêt qui est à deux pas.
Mais oui, donc c'est plutôt les lichens, en termes de support, c'est plutôt les arbres, plutôt d'autres végétaux, plutôt des minéraux
de tout. On a beaucoup...
Sur les voitures.
C'est vrai.
On en a sûrement.
J'ai des collègues lichénologues sur leur voiture, ils ont plusieurs espèces de...
Elles ne sont pas spécifiques quand même, on n'a pas vu apparaître des lichens spécifiques aux voitures.
Ce sont des espèces banales en général.
Ouais.
Quoique des fois, il y a des espèces pas très fréquentes qu'on peut retrouver sur ce support-là, donc c'est assez original.
Ouais. Et puis alors, l'intérêt dans la chaîne trophique, c'est que ça peut être mangé, pas par nous, j'imagine qu'on ne mange pas de lichens, nous les humains. Mais
les humains, non, on n'en mange pas. Dans certains peuples, on en mangeait. Plutôt des lichens du type foliacé, des espèces du type cétraire. Mais au niveau nourriture, c'est plutôt la nourriture des rennes.
En Laponie.
Voilà, des rennes ou des caribous au Canada, qui en hiver, quand la végétation a disparu, la seule végétation qui reste, ce sont les lichens.
Oui.
Et le nom d'un groupe de lichens qu'on appelle le lichen des rennes.
Spécifique.
Un genre qu'on retrouve aussi par chez nous.
Mais
c'est des lichens fruticuleux, comme je disais tout à l'heure, sous forme d'arbuste. Et ils peuvent faire 15 cm de longueur.
Ça peut vraiment
être fou. Ce qui fait que ça fait de la nourriture pour les rennes.
Pratique.
Et parce qu'en fait, en hiver, c'est leur alimentation. Alors, il faut qu'ils aillent la chercher, cette nourriture, sous la neige. Donc, ils grattent.
Ils savent, en gros, qu'il va y avoir du lichen à cet endroit-là.
Ils doivent gratter la neige pour pouvoir atteindre le lichen, avec leurs sabots assez larges.
Et sinon, vous, les naturalistes, Laurent Gragy, comme vous, vous en servez des lichens pour évaluer la pollution, c'est ça ? Vous disiez c'est les capteurs de pollution.
Comme utilisation... les lichens, on a remarqué, même ça a été remarqué dès le 19e siècle. Nylander, dont je vous parlais tout à l'heure, il avait déjà constaté en étudiant les lichens que plus on s'approchait des villes, et notamment de Paris, moins il y en avait. Donc ça, c'était en 1850.
Déjà.
Il avait déjà observé ça. Et à l'époque, c'était c'était associé à la pollution aérienne par les feux de cheminée, le bois.
C'était les particules qui nuisaient aux lichens.
Voilà. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites aussi au cours du temps. Et après, avec l'avènement de l'utilisation du pétrole, donc de l'essence, on a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de lichens qui disparaissaient des villes à cause de la pollution soufrée. Et ce qui fait que dans le pétrole, il y a beaucoup de soufre. Ce qui fait qu'à partir d'un moment donné, il y a eu moins de soufre dans les naissances.
Ah oui.
Et ce qui fait que ça a amélioré la qualité de l'air. Et on revoit peu à peu une colonisation des lichens. C'est principalement les lichens foliacés qui étaient atteints. Parce que les lichens foliacés ont une grande surface et ils ont une comme il n'y a pas de... Le thal des lichens n'a pas de carapace, entre guillemets, pour se protéger.
Ils sont très fragiles.
En fait, ils absorbent la pollution de l'air. Et c'est pour ça aussi qu'on les prélève pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a dans l'air, qu'est-ce qui s'est accumulé dans le champignon. Si on en trouve dans le champignon, ça veut dire qu'il y en avait dans l'air. C'est pour ça qu'on a pu... parce qu'en fait, ils accumulent les métaux lourds, mais ils accumulent aussi les radioéléments.
Eh bien oui, aussi.
Donc, c'est après Tchernobyl, une des sources d'analyse des pollutions en radioéléments, c'était de faire des prélèvements sur les lichens. En fait, c'est les meilleurs capteurs, c'est les champignons.
D'accord. Oui, c'est ça, pour les métaux lourds, si c'est connu.
Donc, en prélevant donc, des lichens, on pouvait mettre en évidence la présence de radioéléments qui ont survolé et qui ont été captés par la pluie. Et après, la pluie donc, est tombée sur les lichens. Et à ce moment-là, eux, ils ont capté ces éléments-là.
D'accord. Merci les lichens. Et merci Laurent Gagé. Et merci à Bretagne Vivante avec toutes ces émissions qu'on a réalisées une fois par mois. À bientôt.
Ben oui.
Et vous pouvez réécouter toutes les autres émissions sur le site de la radio, transistoche.bzh. Et puis on espère en avoir bien d'autres à la rentrée.